remercions parce que nous pouvons encore ce matin être là pour écouter ta parole, pour nous fortifier. Merci Jésus de ce que tu vas nous rendre attentifs maintenant à ce que nous avons à entendre afin de pouvoir traduire ces choses en action tout au long de la semaine qui vient et de notre vie. Merci Seigneur Jésus de renouveler nos forces afin que nous soyons véritablement intelligents et ouverts pour bien comprendre les choses. Merci Seigneur de bénir aussi ceux qui viendront sur Internet et qui écouteront ou à la radio. Je te prie Seigneur Jésus que chacun puisse recevoir quelque chose, une parole qui vient de toi, une parole de délivrance, une parole de paix pour consoler. Merci Jésus de nous aider. Amen. À tous. Alors ce matin, je vous avais annoncé une surprise, eh bien elle est là la surprise, c'est que notre frère qui devait venir n'a pas pu venir, il a raté son train. Est-ce que je vous dis son nom? Parce que voilà, je n'avais pas dit le nom vendredi, c'était notre frère Alex Château de Madagascar. Et il m'a téléphoné, il m'a dit « mon pauvre frère, j'ai raté mon train, je l'ai vu partir devant moi comme ça ». Et voilà, bon. Eh bien, vous êtes, voilà, c'est moi qui vais vous annoncer la parole de Dieu donc ce matin. On va lire Jean 16, 13, 16, s'il vous plaît, ensemble. Au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, Jésus demanda à ses disciples « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme, c'est-à-dire à mon sujet ?» Ils répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je ?» Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, « Tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Amen. Faites-vous asseoir. Voilà, que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner, je feuilletais un peu le journal et encore des horreurs, toujours des horreurs. C'est épouvantable ce qu'on voit en ce moment. Les démons sont lâchés. C'est pourquoi nous devons nous fortifier avec la parole de Dieu, mes frères. Ce matin, j'ai vu que dans la région parisienne, il y a deux femmes, deux chrétiennes évangéliques, qui ont balancé du vitriol sur une autre femme parce qu'elles étaient jalouses, parce qu'elle allait se fiancer avec le pasteur. Vous vous rendez compte? Des trucs pareils. C'est effrayant. Alors évidemment, les journalistes disent « dans une église évangélique ». Ils ne vont pas dire, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a tué, comme par exemple, il y a une femme qui a aussi là, j'ai lu dans le même journal, une femme qui a tué ses deux jumelles et qui les a mis à la poubelle, ils ne disent pas une catholique ou une musulmane, non. Non, mais nous, quand c'est nous les évangéliques, alors tout de suite, ah, les évangéliques. Oh mon Dieu, quel monde. Vendredi, je vous parlais de nos 12 facultés ou 12 puissances intérieures. Nous devons vraiment prendre garde à ces choses et ne pas nous laisser aller, nous laisser couler et ne pas être... Nous devons être des gens qui prenons soin de ce que Dieu a mis en nous. Nous avons à discipliner ces 12 puissances intérieures. Et je vous parlais de la première vendredi passé pour ceux qui ont été sur Internet. C'est la puissance de notre perception spirituelle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Allez écouter sur Internet, vous l'entendrez. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'en viendrai tout de suite à notre deuxième faculté ce matin. Je vous expliquais en prenant Job que Dieu disait à Job, « Ah, tu es si intelligent, c'est formidable. Alors je vais m'asseoir et tu vas me parler, tu vas m'instruire, tu vas me dire. Alors c'est qui? C'est toi qui as placé le zodiaque dans le ciel? C'est toi qui mets l'influence du zodiaque sur la terre? C'est toi qui fais ça? Non, c'est qui alors? » Et bien sûr, nous savons que c'est Dieu qui le fait. L'astrologie est une science qui nous est interdite, mais il n'empêche quand même qu'il y a une puissance là-dedans. Elle nous est interdite parce que nous avons péché, nous sommes déchus, maintenant nous sommes rétablis dans notre position de fils et filles de Dieu, mais nous n'avons toujours pas à toucher à ces choses. Dieu nous a donné d'autres moyens pour connaître l'avenir, pour connaître ce que nous devons faire pour en prendre conscience. Et il a mis en nous ce qui est nécessaire. Et nous, l'astrologie nous est toujours interdite. Donc, Jésus-Christ est, nous le savons, notre rocher, le rocher sur lequel nous sommes établis. L'apôtre Pierre a eu la révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça c'est le rocher, nous sommes le rocher de la révélation, nous avons cette révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et en Jésus-Christ, nous sommes dans le domaine sacré de la conviction par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. D'accord? Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, il est le Fils de Dieu. Et mes frères et sœurs, beaucoup disent Jésus-Christ est le Fils de Dieu, beaucoup disent il est le rocher des âges, beaucoup disent et pensent croire cela. Mais quand on regarde comment ils se comportent, si nous ne nous disciplinons pas, si nous ne disciplinons pas cette force qui est en nous, la force de la conviction, ce pouvoir que nous avons de la conviction, malgré le fait que nous avons eu la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien, si nous ne cultivons pas notre puissance de conviction, nous devenons des victimes des pensées qui vont et qui viennent. Et nous nous laissons affoler, nous nous laissons attrister, nous nous laissons coincer. Nous devenons irrésolus, semblables aux flots de la mer qui poussent, qui vont, qui vont, qui viennent, et qui poussent finalement sur le rivage des saletés. Et on voit beaucoup de gens qui aiment Jésus, mais c'est encombré, leur vie encombré par des tas de machins, des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec Jésus, des croyances, des trucs, des peurs, des craintes, des jalousies, des toutes sortes de choses, parce qu'ils sont irrésolus, ils n'ont pas cultivé leur conviction pour être fermes sur ce rocher. Vous comprenez, hein? Être sur le roc, c'est être convaincu de l'immuable existence du bien. Dieu est le bien, il est notre souverain bien, il est le tout-puissant, et j'aime à répéter cela. S'il est tout-puissant, où se trouve-t-il une place pour une autre puissance? Il n'y a pas. Le diable n'a de la puissance que si nous lui en donnons, que si nous croyons qu'il est puissant. Alors à ce moment-là, eh oui, il peut agir parce que Dieu nous laisse. Il dit, bon, si tu penses comme ça, alors vas-y. Pierre disait, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et maintenant, alors que Dieu est en train de rétablir toutes choses dans son Église, eh bien, nous en sommes arrivés à avoir la conviction suivante. 1 Jean 4,17, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous sommes autant fils de Dieu que lui. Notre véritable identité nous a été révélée. Elle n'est pas encore manifestée aux gens du monde, ils ne voient pas que nous sommes des fils de Dieu. Mais nous, nous le savons, nous en avons la conviction, mais il faut travailler cette conviction. Il faut qu'elle soit de plus en plus solide. Nous sommes les oints, nous sommes les fils du Dieu vivant. Pierre disait, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Christ, ça veut dire oint. Nous ne sommes pas en train de courir après l'onction. Je recevais encore hier une publicité pour aller à une série de réunions qui vont avoir lieu sur Paris, au sujet de l'onction. Nous ne courons pas après l'onction, nous sommes oints. Plus, nous sommes baptisés, nous sommes immergés dans le Saint-Esprit. Dieu est en notre faveur, nous sommes plongés en lui, immergés en lui, et il est fidèle. Il est fidèle tout au long du chemin. Quoi qu'il arrive, pendant que nous sommes en train de marcher sur ce chemin, nous allons du point du moment où nous nous sommes convertis jusqu'au moment où nous allons mourir, ou alors où nous serons enlevés dans la gloire. Eh bien, au long de ce chemin, dans le temps qui s'écoule, là, il peut arriver toutes sortes de choses, mes frères et sœurs. Mais cultivez votre conviction. Il sera fidèle tout le temps. Il ne vous abandonnera jamais. Il n'abandonne pas les siens. Jamais. Il ne les perd pas. Il n'a pas perdu Judas. Judas n'était pas un des siens. Il était fils du diable. C'est ce que la Bible nous dit. Et Jésus le savait. Il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas, même si nous commettons des choses qui sont regrettables, qui ne sont pas bonnes toujours sur ce chemin. Je vous disais ce que je lisais dans le journal, mais vous allez me dire que c'est une revue de presse aujourd'hui. J'ai acheté un livre, parce que j'en ai vu la publicité, un livre qui est signé par Jean-Marie Perrier, vous savez, celui qui faisait, pour les plus vieux d'entre nous, Jean-Marie Perrier, c'est celui qui faisait les magnifiques photos de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Claude François, les Rolling Stones, tout ça dans les années 60. Vous connaissez ? Magnifiques photos, qui c'est qui n'a pas vu ces photos ? Elles sont partout en France. Et Jean-Marie Perrier raconte dans ce livre quelque chose d'épouvantable. Il a pris connaissance d'un fait, il est allé s'y renseigner, il est complètement engagé là-dedans maintenant, dans une association qui s'appelle Le Refuge. Il raconte dans ce livre l'histoire d'une douzaine d'ados, des garçons gays, homosexuels, et des filles lesbiennes. Ces gamins, ils ont été jetés à la rue par leurs parents à cause de leur différence, à cause de leur homosexualité. Le titre du livre, c'est « Casse-toi ». casse-toi. En France, mes frères et sœurs, on ne sait pas exactement combien il y a de jeunes ados qui souffrent de ce rejet et se retrouvent SDF. On ne le sait pas, parce qu'on s'en fout. Par contre, aux États-Unis, il y a un rapport qui a été publié. Et parmi les jeunes SDF, il y a 20 à 40% de ces jeunes-là qui sont homos. C'est-à-dire qui ont été rejetés par leur famille. Rien qu'à New York, 30% des 3800 sans-abri de moins de 25 ans sont gays, lesbiennes ou bisexuels. Chasser son enfant à cause de cela. L'envoyer à la rue, où il va vivre de quoi, à votre avis? Il va vivre de quoi, à votre avis? Il risque les pires choses. C'est honteux. Qui est dégénéré dans l'histoire? Je ne fais pas l'apologie de l'homosexualité, mais qui est dégénéré dans cette histoire? Mon Dieu. De tels parents sont coupables, coupables devant Dieu d'une chose honteuse. Autre chose, une autre histoire. Je connais un homme qui a été pasteur, et il a dû divorcer à cause de sa femme, qui était une véritable nymphomane et qui provoquait des scandales terribles dans la paroisse où le pasteur exerçait. Cet homme a été rejeté de sa dénomination religieuse. Rejeté. Même viré comme un malpropre, comme si c'était lui qui avait fait quelque chose de mal. Quelques années plus tard, cet ex-pasteur a rencontré une chrétienne et puis ils se sont mariés. La mère de cette chrétienne en question, elle est chrétienne, sa mère. Elle ne veut plus voir sa fille parce qu'elle dit « Ma fille, tu n'es plus ma fille, tu es dans le péché avec un pasteur défroqué. » Honte à une telle mère. Honte. C'est une femme, une maman pentecôtiste qui va poser son gros derrière dans l'église tous les dimanches, qui lève les bras, qui peut-être roule par terre dans le Saint-Esprit aussi, en louant le Seigneur. Alléluia, tu es mon souverain. Alléluia. Honte. La Bible dit qu'à la fin des temps, les enfants tueront leurs parents. Mais je pose une question. Pourquoi pensez-vous que les enfants tueront leurs parents? Pourquoi? C'est une honte. Mon Dieu. Mon Dieu. J'ai une grande conviction. Si mon père ou ma mère m'abandonnait, jamais l'Éternel ne m'abandonnera. Jamais il m'abandonnera. Dis, jamais il ne m'abandonnera. Parce que mon père n'est pas un père dégénéré. Mon père céleste n'est pas un père dégénéré. Mon père céleste n'est pas un crétin, un con. Voilà ce qu'ils sont ces gens. Des ordures, des riens. C'est scandaleux. Si vous m'entendez, si vous avez abandonné votre enfant, repentez-vous. Vous êtes une saleté ambulante. Repentez-vous, si c'est possible, et revenez à Dieu. Et accueillez votre enfant. La conviction que Dieu est fidèle est de plus en plus nécessaire dans notre époque. Parce qu'un esprit d'infidélité est venu. Ils sont lâchés, ces démons. Pire que jamais. À cause de l'immaturité, à cause d'une société de consommation où on veut tout de suite et facilement. La méchanceté du plus grand nombre se met en avant. Des gens sont devenus tellement bêtes et méchants que moi je peux. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui est véritablement fidèle. Et si on ne s'accroche pas vraiment en Jésus-Christ, mes pauvres amis, mais où est-ce qu'on va les gicler? Jésus est fidèle tout au long du chemin. Quoi qu'il arrive dans ce chemin, il faut que vous cultiviez cette conviction. Et il faut que vous vous ancriez là-dedans. Sinon, vous allez être des victimes, vous aussi. Mes frères et sœurs, ne compromettez pas votre joie, la joie de votre salut, en ne vous occupant pas de cette puissance de conviction que Dieu a placée en vous. Les circonstances, l'inflation, le gouvernement en place, tout ça ne peut pas empêcher Dieu d'atteindre l'objectif qui s'est fixé au sujet de votre vie. Vous allez faire ce que Dieu a dit que vous allez faire et vous le ferez parce que Dieu a dit que vous le ferez. Ne vous laissez pas décourager parce que nul ne peut arrêter la main de l'Éternel ou lui dire « Que fais-tu ?» Daniel 4, 32. Soyez plein de cette conviction, mes frères et sœurs. Dominez votre conviction. Ne laissez pas cette conviction, cette puissance qui est en vous sans le secours de vos prières, de vos méditations, de votre contemplation. d'un éternel qui est bon, qui est juste, qui est miséricordieux à l'infini. Trop de chrétiens sont convaincus qu'ils sont trop vieux, que Dieu leur en veut, que la vie est dure. C'est parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la puissance de leurs convictions, mes frères et sœurs. Il faut être maître de cette conviction, il ne faut pas la laisser aller comme ça, n'importe comment, en haut, en bas, au gré des circonstances et des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Maîtrisez la puissance de conviction dans la prière, dans la méditation, dans la contemplation de votre Dieu. Et c'est seulement ainsi que vous arriverez à ne pas vous laissez convaincre par le diable. Beaucoup de gens se laissent convaincre par le diable, ou même pas par le diable, mais par leur chair ou par des espèces de petits esprits gluants. Et alors ils deviennent négatifs, ils deviennent craintifs, ils deviennent jaloux, peureux. Et vous savez tout ce que ça fait? Ça rend méchant. Ça rend méchant. Vous n'avez pas dominé votre puissance de conviction par l'Esprit de Dieu qui est en vous. Il faut que ça change. Il faut que vous. Il ne faut pas demander à Dieu, « Seigneur, convainc-moi. » Oh non. « Seigneur, je place entre tes mains la conviction que j'ai, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. J'ai cette conviction. Je place cette conviction entre tes mains. Fortifie-la, garde-moi, mon Dieu, afin que toujours je confesse et que je me comporte toujours de la manière la plus convaincue dans toute situation. » Parce que la foi, elle ne s'arrête pas devant un obstacle. La foi ne reconnaît personne d'autre comme maître sinon Jésus. Mais s'il n'y a pas de conviction, ou si votre conviction est émoussée, mes frères et sœurs, vous êtes de sa race, vous êtes de la race du Seigneur, vous êtes de la race du Maître, vous êtes de la race de Dieu, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Cessez de vous laisser trimballer par un mauvais maître qui vous ment, qui vous raconte des trucs et qui vous fait voir des choses qui vous semblent réelles, mais qui en réalité ne sont que des mensonges. Mais Michel, j'ai essayé, ça ne marche pas avec moi, ça ne marche pas. Si tu penses cela, convertis ta pensée. Un jour, je parlais avec un homme, il m'a dit, « Moi, je n'arrive pas à convertir mon porte-monnaie. » Ça, c'est un problème. Ce n'est pas le sujet de ma prédication aujourd'hui, mais il n'y a pas que le porte-monnaie qu'il faut convertir. Il y a aussi vos pensées. Convertissez vos pensées. Il faut que rapidement, tu prennes ta pensée sous discipline, que tu la disciplines, que tes convictions soient véritablement barricadées, ancrées solidement sur ce rocher. Sinon, ben, tu réaliseras que des trucs minables qui combleront pas ta vie. Job 29, 14 nous dit, « J'avais l'équité, c'est-à-dire la justice, pour manteau et turban. » Qu'est-ce que ça signifie? C'est joli, c'est très poétique, mais ça signifie quoi? Si tu as dominé ta faculté de décision, tu es revêtu de conviction et ton turban sur ta tête, c'est le turban de la vérité, de la beauté, de la perfection de la vérité. J'explique. Voir juste. Je vous ai parlé vendredi de la perception. Voir juste. C'est une puissance qui est en vous, la puissance de voir juste, de discerner, de voir juste par le Saint-Esprit qui est en vous. Voir juste, être convaincu solidement, être revêtu des décisions complètes, être coiffé de vérité scripturaire et aimante, pas seulement scripturaire et légaliste pour condamner. Ça veut dire quoi dans la vie pratique? Eh bien, ça veut dire, pour pouvoir y répondre, il y a une question que je vous pose, c'est comment au ciel d'après toi? Eh bien, la volonté de Dieu, elle doit être sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors, si ça ne commence pas par toi, ça va commencer par qui? Il faut que toi, tu commences à faire la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. Tu as besoin d'apprendre à faire ça. Tu as besoin de percevoir que la volonté de Dieu, elle est déjà faite. Malgré toutes les horreurs que tu peux voir sur la terre, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Si toi, tu es du côté des enfants de la lumière, alors que tes yeux soient éclairés et que tu vois que de toute façon, tout est fait dans un but bien précis. Il faut que tu en sois convaincu. Tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de percevoir. Les anges, quand ils regardent la terre, ils disent, les cieux, la terre et les cieux racontent ta gloire. Et nous, quand on regarde, on dit, oh là, vraiment, vous trouvez, vous? Si, il faut changer de perception, regarder autrement. Il faut percevoir comme Dieu perçoit, regardez comme Dieu regarde. Par exemple, comment il te regarde, toi qui te juges être un minable? Il te regarde purifié par le sang de Jésus, il te regarde comme un fils royal, il te regarde comme quelqu'un merveilleux. Et toi, tu dis, oh oui, non, mais moi je me connais, je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce, mais si ce n'était pas par la grâce, je suis qu'un pauvre minable, vous savez. Mais non! Perçois les choses telles que Dieu les perçoit. Et alors après, fortifie ta conviction en étudiant les Écritures pour pouvoir prendre enfin des décisions vraies, c'est-à-dire des décisions selon les Écritures, c'est-à-dire en accord avec les ordonnances de Jésus, toujours dans l'amour, c'est-à-dire en harmonie avec la santé, en harmonie avec la paix, en harmonie avec l'abondance, qu'elle soit financière ou peu importe. Dieu ne veut que le bien. Il faut que tu penses toujours comme ça. La seule puissance, c'est celle du bien. Et toi, tu es de ce côté-là. Amen. Trop de chrétiens s'acharnent sur leurs travers ou les travers des autres. Alors, ils se condamnent ou ils condamnent les autres, ils critiquent. En faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent en eux-mêmes des qualités, entre guillemets, négatives. Ils les bloquent en eux-mêmes. Et ils deviennent ce qu'ils condamnent. Vraiment? Vraiment? Il n'y a qu'à regarder autour de vous pour vous rendre compte que ce que je vous disais est la vérité. Alors prenez donc la décision. Revêtez-vous du manteau de cette justice que vous avez reçue en Jésus-Christ. De la décision suivante, qui est juste. Revêtez-vous de cette décision et soyez convaincus que Dieu va vous aider tout au long du chemin. Cette décision, c'est celle-ci. Je vais obéir à Zacharie 8.17. Je vais obéir à Zacharie 8.17. Zacharie 8.17, c'est le turban qui est sur ma tête. Zacharie 8.17 coiffe l'organe avec lequel je pense. Zacharie 8.17 coiffe l'organe de mon intelligence. Je prends cette décision. Zacharie 8.17 est la parole de Dieu dont je veux vivre. Tu ne vivras pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, je veux toute la parole de Dieu, en particulier Zacharie 8.17. Qu'est-ce qu'il dit, Zacharie 8.17? Nul, que nul ne pense mal de son prochain. Qui est plus proche de toi, sinon toi? Et ensuite les autres qui sont près de toi. Faisons de cette faculté notre disciple, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dès le début de la Genèse, que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme. C'est Jésus, la postérité de la femme. Jamais un homme n'est né sans qu'il y ait un homme et une femme. Sauf Jésus. Jésus est né de la postérité directe de la femme. Et cette postérité a écrasé la tête du serpent, c'est Jésus. Et nous sommes le corps de Christ aujourd'hui. Il vit en nous. Nous sommes un corps qui a été mordu au talon. Nous avons des difficultés pour marcher, pour avancer, mais nous sommes quand même le corps de Christ qui a marché sur la tête du serpent. Vous souffrez, le corps de Christ entier souffre dans sa marche, dans sa progression. Mais nous ne sommes pas obligés, nous-mêmes, de rajouter des souffrances supplémentaires au corps de Christ par notre bêtise et notre manque de consécration. Mes frères et sœurs, mettons-nous sous la puissance de Dieu. Rappelez-vous ce qui est dit dans Job que je vous ai prêché le vendredi passé. Mettez-vous sous toutes les puissances bénéfiques qui consument ce qui est mal et qui vivifient ce qui est bien. Soyez remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire d'une perception spirituelle, d'une conviction scripturaire, de décisions justes selon la parole de Dieu, de vérités qui construisent. Allez et ne péchez plus. Quel programme! Dieu voulant, vendredi, je vous parlerai encore d'autres puissances qui sont en vous, sur lesquelles nous avons à prendre autorité. Éphésiens 3.20 nous dit, « Par la puissance qui est en vous, Dieu peut faire au-delà de ce que vous pensez et imaginez. » Quelle puissance, ces puissances-là? Mais il faut que vous vous en occupiez. Ce matin, je pensais à Philippe, je ne sais pas qui c'est qui est venu faire le feu, là. Il est venu faire le feu. Tout à l'heure, après le culte, on va se séparer, on va partir. Le feu va s'éteindre. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour rajouter du bois, ça s'éteint. Le Saint-Esprit est un feu. Mais tout ce qui brûle, ça finit en cendres, mes frères et sœurs. Si on ne rajoute pas sans arrêt. Ça va se terminer en cendres. Vous avez commencé par le feu du Saint-Esprit, vous allez finir comment? En cendres? Non, il faut ranimer ce feu, il faut rajouter sans arrêt, il faut rajouter, non pas du mal, mais du bien. Amen. Soyez les spécialistes du bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir ces quelques mots que j'ai pu dire à mes frères et sœurs. Permet qu'ils puissent s'en pétrir, être remplis de courage pour la semaine qui vient, qu'ils prennent en considération toutes ces choses et qu'ils se mettent au travail en travaillant sur eux-mêmes, sur leurs pensées, qu'ils sont des fois vagabondes, qu'ils sont comme les vagues de la mer, qui vont, qui viennent, qui charrient toutes sortes d'impuretés. Permet, Seigneur mon Dieu, que chacun puisse avoir des convictions fermes, ancrées sur le rocher que tu es. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, je te remercie d'avance, mon Dieu. Amen. Amen. Amen.